Alors, on se penche aujourd'hui sur une source unique, le magazine EcoBusiness, qui date du 29 décembre 2025. L'idée, c'est de s'en servir un peu comme d'une photographie pour voir où en est l'économie marocaine, là, juste à la bascule vers 2026. Et c'est un portrait assez fascinant.
Oui, fascinant et plein de contrastes. Ce qui frappe vraiment à la lecture, c'est ce grand écart permanent. Dans quasiment chaque dossier, on sent une tension. Une tension entre la gestion de l'immédiat, de l'urgence, et en même temps cette conscience très forte qu'il faut absolument anticiper les défis de long terme.
C'est ça, le climat, l'immobilier, la tech.
Exactement. C'est vraiment le portrait d'une économie qui jongle en permanence.
On peut commencer par l'édito, qui donne vraiment le ton. Le titre à lui seul, c'est tout un programme. Hier, gouverner, c'était pleuvoir. Aujourd'hui, gouverner, c'est anticiper. Il part d'un constat tout simple. Tout le monde est soulagé par les pluies de fin d'année. Mais l'édito nous dit attention.
Attention, ne nous laissons pas endormir.
C'est ça. Ce répit est bienvenu, mais la sécheresse, elle, la sécheresse structurelle, est toujours là.
Et c'est là que ça devient passionnant. L'édito ne se contente pas de commenter la météo du jour, non. Il va déterrer une étude incroyable qui date de 1995, signée par un certain Robert Ambrogi.
Attendez, de 1995? C'est fou ça! Comment on pouvait prédire une sécheresse avec autant de précision il y a 30 ans, bien avant que le changement climatique soit, disons, le sujet numéro 1?
Eh bien, c'est ça qui est fascinant. Sa méthode était révolutionnaire. Il a utilisé ce qu'on appelle la dendrochronologie.
Ah oui, l'étude des cernes des arbres.
Exactement. Pour faire simple, il est allé dans le Moyen Atlas, il a étudié les cernes de croissance des cèdres, des arbres qui ont plusieurs siècles, hein. Chaque cerne, c'est une archive du climat. Un cerne large, c'est une année pluvieuse. Un cerne fin, une année de sécheresse. Et en analysant ça, il a reconstitué près de 1000 ans de cycle climatique.
D'accord, donc il a regardé dans le passé. Mais le plus dingue, c'est la projection qu'il en a faite. L'article nous dit qu'il avait prédit, noir sur blanc, une période de sécheresse particulièrement grave pour 2023-2024.
Ce qui s'est produit.
Oui, avec une exactitude quasi chirurgicale. C'est une claque quand on y pense. Ça montre que les outils scientifiques pour aider à la décision, bah, on les a depuis longtemps.
Tout à fait. Et l'éditorial s'appuie là-dessus pour faire passer son message principal. Il dit, attention, le problème aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les cycles naturels qu'Ambrogi avait identifiés. Le vrai sujet, c'est que le changement climatique, lui, agit comme un accélérateur surpuissant.
C'est un multiplicateur de crise, en fait.
Voilà. Les températures montent, donc l'évaporation est plus forte, les sols s'assèchent plus vite. Une sécheresse qui était cyclique devient systémique, beaucoup plus brutale et beaucoup plus fréquente.
Du coup, la conclusion de l'édito, elle est assez directe. Le défi, il n'est plus technique ou climatique, il est devenu profondément politique. Il s'agit de faire évoluer tout l'appareil d'État, de passer d'un mode réactif.
On gère la crise quand elle est là.
Voilà. Un mode proactif où on organise la rareté de l'eau sur le long terme. Le magazine reconnaît les efforts, bien sûr, les barrages, le dessalement, mais il estime que cette transformation mentale, cette culture de l'anticipation n'est pas encore totalement achevée.
Et cette idée de transition d'une période un peu entre deux, on la retrouve de façon très frappante dans un autre secteur que le magazine aborde, l'immobilier.
Ah oui, l'immobilier. Là, on a une situation en 2025 qui est complètement paradoxale, non? Le magazine décrit un marché presque schizophrène. D'un côté, il y a plein de logements à vendre, beaucoup de gens qui cherchent, mais de l'autre.
Les transactions sont au point mort. C'est ça qui est fou.
C'est un dialogue de sourds.
2025, la Coupe du Monde 2030 qui se profile. Du coup, ils affichent des prix très, très élevés.
Des prix un peu déconnectés.
Totalement. Et en face, les acheteurs, eux, ne sont plus dans l'euphorie. Ils sont devenus plus prudents, plus lucides. Ils visitent, ils comparent et surtout, ils négocient. Ils négocient durement. Résultat, le marché ne s'effondre pas. Non, il se fige.
Et le magazine met le doigt sur un problème encore plus profond, qui grippe un peu toute la machine, le marché de la location. C'est un vrai nœud.
C'est le cœur du problème. L'article explique que des milliers de logements restent vides, pas parce qu'il n'y a pas de locataires, mais parce que les propriétaires ont peur de louer.
Peur des impayés.
Peur panique, des impayés, mais surtout des procédures pour récupérer leurs biens. Et là, l'article met un nom sur le coupable. C'est la fameuse loi 94 qui est perçue comme, disons, déséquilibrée. En voulant surprotéger le locataire, elle rend les procédures d'expulsion si longues et complexes que ça tétanise les propriétaires.
Ce qui crée une situation absurde. on se retrouve avec une pénurie artificielle de logements à louer et ça fait flamber les loyers des biens qui sont sur le marché. C'est un cercle vicieux.
Tout à fait. Et à ça, vous ajoutez le coût du foncier, le prix du terrain, qui peut grimper jusqu'à 60% du coût total d'un projet. Tant que ce levier-là n'est pas maîtrisé, c'est difficile d'espérer une baisse massive des prix.
Le tableau n'est pas complètement noir, quand même.
Non, non, heureusement. Le magazine souligne des fondamentaux solides. Les transferts d'argent des Marocains de l'étranger qui restent très importants, la bonne santé du tourisme, tout ça, ça irrigue l'économie.
Et donc, la conclusion de l'article, c'est quoi? On reste bloqué longtemps?
Non, l'analyse est que 2025, ça a été une année de correction silencieuse, une année d'ajustement. La prévision pour 2026 est plus optimiste. Pas parce que les prix vont exploser, au contraire, mais parce qu'on s'attend à un réalignement. Les vendeurs vont devoir devenir plus réalistes.
Et les acheteurs reviendront sur le marché.
Voilà. Le mot qui revient tout le temps, c'est lucidité. C'est le passage obligé pour que le marché reparte sur des bases plus saines.
Heureusement, tout n'est pas figé. Le magazine montre aussi une économie qui, elle, bouge très vite, surtout du côté de la tech et de l'investissement. On sort de la pierre pour aller vers le digital.
Oui, et avec des projets très concrets, très ancrés dans le réel. On a par exemple un focus sur une fintech qui s'appelle Wallis. Elle vient de lever 2,2 millions de dollars. Et leur mission, elle est simple mais essentielle. Digitaliser le commerce de proximité.
L'épicier du coin, le Moulanout.
C'est ça.
J'ai beaucoup aimé le témoignage dans l'article, celui d'un commerçant, Monsieur Aziz. Il dit un truc tout simple, hein. Il dit « Aujourd'hui, je gère encore mes stocks à la main sur un carnet. Une plateforme comme celle-ci pourrait vraiment changer la donne. » Ça rend la chose tellement concrète.
Absolument. On comprend tout de suite l'impact. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article ne présente pas Wallis comme un gadget. Il insiste sur la dimension d'inclusion financière. En équipant ces petits commerces, on leur donne accès aux paiements digitaux, à une meilleure gestion, peut-être demain à des microcrédits. On fait entrer dans l'économie formelle tout un pan de l'activité.
C'est un levier de développement énorme.
Très puissant, oui.
Et ça, ça a l'air de s'inscrire dans une stratégie plus large. Parce que le magazine annonce aussi le lancement d'un nouveau programme gouvernemental, Startup Venture Building. Et là, les chiffres sont tigrants.
Très ambitieux. L'objectif, c'est d'accompagner plus de 800 startups en 3 ans. Et pas seulement avec des belles paroles. Le programme prévoit des outils très concrets. Une bourse de vie pour permettre aux fondateurs de se consacrer à 100% à leur projet et des prêts d'amorçage qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de dirhams.
C'est une réponse à un problème qu'on connaît bien dans l'écosystème, non? Ce passage à l'échelle?
Oui, l'article l'appelle le maillon faible. Le Maroc a réussi à créer une culture de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créations. Mais le moment où la bonne idée doit devenir une vraie entreprise rentable avec des salariés, c'est là que ça coince souvent. Et ce programme, qui fait partie de la grande stratégie Digital Morocco 2030, vise spécifiquement cette phase critique.
Et pendant que les startups essayent de grandir, les grands groupes, eux, ils n'attendent pas. Le magazine rapporte 2 opérations financières majeures.
En effet. La première, c'est dans le secteur bancaire. La Banque Centrale Populaire, la BCP, qui finalise la prise de contrôle totale de sa filiale Atlantic Business International.
Pour un montant colossal.
Oui. 1,88 milliards de dirhams. Concrètement, ça veut dire qu'elle consolide sa présence et son commandement dans 9 pays d'Afrique subsaharienne. C'est une affirmation de sa puissance à l'échelle du continent.
Et la deuxième opération, elle nous emmène dans la santé avec un acteur qui a beaucoup fait parler de lui, le groupe Acdital.
Oui, Acdital qui sort des frontières. Le groupe vient d'acquérir le tunisien Taoufik Hospitals Group pour 90 millions de dollars. C'est sa toute première implantation hors du Maroc, en Afrique du Nord. C'est un mouvement stratégique très fort, mais l'article soulève une question pertinente, en filigrane.
L'équilibre entre le privé et le public, hein ?
Voilà. Comment trouver le juste équilibre entre cette croissance très rapide d'un acteur privé qui vise une clientèle solvable et l'enjeu majeur de l'accès aux soins pour toute la population ? C'est un vrai débat de fond.
On ne pouvait pas parler de la fin 2025 sans aborder la Coupe d'Afrique des Nations. On a l'impression que toute l'économie a vécu au rythme de la canne. L'impact à court terme, il est évident. Le magazine parle d'hôtels complets, de restaurants pleins.
Il y a même un chiffre qui donne le tournis. Près de 900 000 passagers dans les aéroports en seulement 10 jours. C'est un boom économique instantané, c'est clair. Mais la vraie question, celle que pose l'article, c'est « et après ?»
Qu'est-ce qu'il en reste ?
Voilà. Une fois que les équipes sont reparties, que les caméras sont éteintes, qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que c'est juste un pic de sucre ou est-ce que c'est un vrai levier de croissance durable ?
C'est le piège classique des grands événements sportifs, le syndrome des éléphants blancs.
Exactement. Ces stades magnifiques, mais hors de prix, qui se retrouvent vides et qui coûtent une fortune en entretien. Le véritable enjeu, c'est de savoir si cette effervescence a permis d'améliorer durablement la qualité des services, des transports, de l'accueil. Est-ce que l'expérience d'un touriste en 2026 sera meilleure grâce à la Cannes 2025 ? C'est ça le vrai test.
Alors là, je suis tombée sur un truc dans l'article, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Au milieu de l'analyse économique, ils se mettent à parler d'une sorte d'aspirateur géant installé sous les pelouses des stades, le système Suber.
Ah oui, c'est un détail technique, mais qui en dit très très long. Pour faire simple, c'est un système qui permet, s'il y a des pluies diluviennes, de drainer l'eau par aspiration vers le bas.
Et la pelouse redevient jouable.
En quelques minutes. C'est une sorte d'assurance tout risque contre les intempéries.
C'est bluffant. Mais au-delà du gadget, quelle est l'analyse du magazine là-dessus ?
L'analyse est double. Et c'est ça qui est intelligent. D'un côté, c'est une décision pragmatique, presque obligatoire. Un match annulé à cause d'une pelouse inondée, c'est une catastrophe en termes d'image. Et surtout, ça met en péril les droits de diffusion TV qui se chiffrent en dizaines de millions de dollars. Donc, le Suber, c'est une police d'assurance qui sécurise ses revenus.
D'accord. Et de l'autre côté ?
De l'autre côté, ça pose des questions plus stratégiques. Le coût, d'abord. C'est très cher. La dépendance, ensuite. C'est un brevet américain, on dépend d'une expertise étrangère. Et enfin, et c'est le plus important, ça révèle un choix. L'article oppose deux logiques. La logique de la vitrine, où l'on investit des fortunes dans des technologies de pointe pour quelques stades.
Qui seront vus dans le monde entier.
Voilà. Et la logique de la résilience, où on pourrait utiliser cet argent pour rénover des dizaines de terrains de sport de proximité à travers le pays. C'est le débat entre l'excellence ponctuelle et l'amélioration globale.
Donc si on essaye de synthétiser, on a une photo de fin 2025 qui est pleine de dynamisme, de projets, mais aussi de tensions, de questions de fond. C'est une économie qui avance vite, mais qui se cherche un peu à un équilibre entre les opportunités du moment et les défis structurels.
C'est tout à fait ça. Et le fil rouge qui relie tous ces articles, de l'eau à la canne en passant par l'immobilier, c'est ce retour constant au message de l'éditorial. Le grand défi pour 2026 et les années à venir, c'est de réussir à transformer ces chocs positifs, comme un événement sportif, et ces réponses aux crises, comme la gestion de l'eau, en une vraie trajectoire de long terme.
Passer de la réaction à l'anticipation.
Exactement. De la gestion du conjoncturel à la construction du structurel.
Pour finir, il y a une image très forte dans l'édito que j'aimerais qu'on reprenne, celle des cèdres de l'Atlas, qui sont présentés comme la mémoire longue de la nature, avec leurs cernes qui enregistrent tout, les bonnes années, les mauvaises, sur des siècles.
C'est une métaphore magnifique. Et elle nous pousse à une dernière question, je trouve. Si les données numériques d'aujourd'hui, les transactions d'une fintech comme Willys, les données satellites sur le climat, les statistiques du tourisme, si toutes ces données sont les cernes d'arbres de notre époque...
Qu'est-ce qu'elles sont en train d'enregistrer ?
Voilà. Quelles sécheresses ou embellies économiques et sociales sont-elles en train d'enregistrer en silence et qui ne seront évidentes pour tout le monde que dans 30, 40 ou 50 ans ? C'est une pensée assez vertigineuse.